Attendez, baissez les bras. Qui ne va pas aller voter? Et les autres, alors, ils ne savent pas encore. Des dates du stage de terrain de cette année est calculée en fonction des élections. Est-ce qu'on compte rentrer dans la nuit du 8 au 9 pour que tout le monde puisse aller voter le 9? C'est le jour des élections présidentielles, si je ne m'abuse. 9 mars. Donc vous voyez, on pense à votre devoir civique. Le stage de terrain en sociologie ne vous empêchera pas de voter. D'accord. Si jamais c'est important pour vous. Alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous exposer une chose passionnante, la plus passionnante de l'année sans doute, c'est la méthodologie de la dissertation. Mon entrée en matière était ironique. La méthodologie de la dissertation n'est pas la chose la plus passionnante, j'espère, que j'aurai à vous raconter cette année. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire, elle vous est nécessaire, et elle m'est nécessaire aussi, disons, je suis obligée de vous l'exposer, parce que au CUF, en sociologie, on doit vous faire faire des dissertations. Et notamment aux examens, vous devez faire des dissertations. Donc, voilà. On n'a pas le choix, vous n'avez pas le choix, et moi non plus. Donc, on va faire la méthodologie de la dissertation. Donc il est particulièrement important pour vous de bien écouter parce que de la façon dont vous allez écouter va dépendre très directement votre note. Donc si jamais la note vous intéresse, voilà, il faut en tirer les conséquences. Alors, donc, qu'est-ce que c'est une dissertation? Une dissertation est un exercice très particulier, français. Typiquement français, alors, peut-être qu'on fait des dissertations dans d'autres pays, mais les Français sont tout à fait maniaques de la dissertation. Donc c'est un exercice très formalisé, il y a des règles, il faut les suivre. Et si vous ne suivez pas les règles, même si vous avez de bonnes connaissances, on vous met des notes qui peut-être ne sont pas horribles, si, surtout si vous connaissez bien la question, mais qui sont moins bonnes, vraiment bien moins bonnes que ce que vous pourriez avoir. Donc essayez de vous pénétrer de cet esprit français. Alors, une dissertation, la façon la plus simple de la définir, c'est de dire que c'est une démonstration. Faire une dissertation, c'est essayer de démontrer quelque chose. Donc c'est un exercice en grande partie rhétorique. Rhétorique. On n'enseigne plus la rhétorique dans les universités, comme on le faisait en Grèce antique. Mais c'est un exercice en grande partie rhétorique. Ce qu'on attend de vous dans une dissertation, il y a plusieurs choses qu'on attend de vous. Plusieurs choses. D'une part, c'est un certain niveau de connaissance, évidemment. Vous êtes supposé connaître les choses qu'on a vues depuis le début de l'année. D'accord ? Aux examens partiels de décembre, vous êtes supposé connaître ce qu'on a fait depuis le mois de septembre. Donc, un niveau de connaissance, mais pas seulement un niveau de connaissance. Donc, lorsque on attend de vous uniquement un niveau de connaissance, il s'agit de questions de cours. D'accord ? Vous venez et puis on vous dit, racontez-moi, s'il vous plaît, quelle est la conception de la socialisation chez Émile Durkheim. Et là, vous racontez. Alors, Émile Durkheim pense que, etc. Et vous racontez. Ça, c'est uniquement le niveau de connaissance. Ici, on attend de vous autre chose, et c'est peut-être primordial dans une dissertation, c'est la preuve d'une aptitude au raisonnement. On attend de vous un raisonnement. On qualifie souvent le modèle de l'éducation française de modèle analytique. On insiste sur les capacités d'analyse. Alors après, on dit parfois que les étudiants français ne savent rien. Par contre, ils savent bien analyser. Mais bon, quand on ne sait rien, c'est un peu difficile. Donc évidemment, c'est parce que vous connaissez des choses que vous pouvez bien les analyser. Mais il ne faut pas sauter, il ne faut pas oublier cette étape, cette composante qu'est l'analyse. Donc aptitude au raisonnement, à la démonstration, à la synthèse. dans la construction de cet exercice. Je répète encore une fois que c'est un exercice très conventionnel, du mot convention, vous savez, les conventions, les règles. Donc il faut les respecter, respecter ces conventions et tout se passera très bien. Je dis pour information que la notation en France, vous devez déjà le savoir, probablement, peut-être par d'autres matières, la notation en France se fait sur 20 points. Vous le savez ou pas? Donc ça se fait sur 20. Donc c'est beaucoup plus rigolo que quand c'est sur 5. Il peut y avoir plein de notes différentes. Donc ça se fait sur 20 et je vous donne une correspondance approximative entre les notes françaises et les notes russes pour que vous sachiez ce que signifie une note. Lorsque vous avez en dessous de 6 ou 5, ça veut dire à peu près 2, d'accord, en russe. Lorsque vous avez 9, c'est en 3. À partir de 10, c'est bien. 12, c'est en 4, d'accord. Et 15 et au-delà de 15, c'est en 5. Ou en 5 avec en plus, comme on met ici, d'accord. Bon. Alors, la dissertation, donc on passe à la méthode de cet exercice proprement dit. Donc d'abord, je vais faire quelques remarques sur la présentation de la chose. Des choses vraiment basiques, mais l'expérience m'a montré qu'il faut les dire, parce que sinon, on a des surprises. Donc première remarque, c'est que, bon, à l'examen, vous n'aurez pas le problème, parce que vous aurez les feuilles qui vous seront distribuées. Vous allez écrire sur des feuilles d'examen. Donc ça sera très bien et très joli. Par contre, pour le devoir sur table, là vous êtes prévenu à l'avance, donc vous pouvez apporter des feuilles à 4, d'accord, pour pas que je me promène avec plein de toutes petites feuilles arrachées d'un petit bloc-notes ou d'un agenda, parce que ce n'est pas du tout commode ni pour vous ni pour moi. Donc des feuilles à 4. Et je vous demanderai, pour vraiment des choses très formelles, de me laisser une marge à gauche ou à droite, comme vous voulez, pour que je puisse faire les commentaires, si j'en fais, d'accord. Si vous ne me laissez aucune place pour rien dire, je vous mettrai juste une note, et puis voilà. Donc vous ne saurez jamais qu'est-ce qui a pu poser problème. Donc laissez une marge. Quelle est la longueur qu'on attend de vous, la longueur d'une dissertation? Alors ça dépend totalement du temps dont vous disposez, bien évidemment. Alors, à l'examen, vous aurez 4 heures, et on attend de vous à peu près 4-5 pages de texte. Là, vous aurez 3 heures, donc on attend moins. D'accord ? Quel est le style d'une dissertation ? Remarque très importante. Alors, d'autant plus importante pour vous que vous n'êtes pas francophone de naissance, donc vous n'avez peut-être pas toujours la sensation des nuances dans le style de français. Le style qu'on attend de vous dans une dissertation, c'est ce qu'on appelle le français soutenu, en langage soutenu. Je ne sais pas si vous comprenez ce terme, il y a des registres différents de langage, le langage familier, le langage technique, le langage soutenu. Donc on attend de vous un langage soutenu, c'est-à-dire un langage académique, d'accord, qui est formel, qui se veut neutre, d'accord. C'est-à-dire qui est caractérisé d'une part par la simplicité, vous devez faire des choses simples, et par la rigueur. Il faut être rigoureux, c'est-à-dire précis. Il faut absolument éviter, comment dire, de tomber dans d'autres registres, par exemple dans le registre de la poésie, de des choses romanesques, de décrire des choses avec des détails fleuris, des métaphores, ce n'est pas du tout utile, ce n'est pas du tout l'endroit pour le faire. Ni de technicité exagérée, mais bon, ça, je ne pense pas que ce sera votre cas. Et il faut également utiliser tout ce qui est familier. Le langage familier est à proscrire. Alors je sais que certains d'entre vous parlent très bien le français et connaissent plein d'expressions rigolotes qu'on utilise dans le langage courant. Mais dans une dissertation, j'espère que vous pouvez tous faire la part des choses, on ne les utilise pas, d'accord. Donc évitez les mots d'argot, les tournures familières et aussi évitez les abréviations approximatives qu'on fait par, comment dire, pour simplifier la notation. Par exemple, j'espère que vous avez tous vu que je vous ai mis à la disposition les cours d'Éric Le Tonturier, en ligne. Oui ou non? Bon. Donc, par exemple, bon, je ne fais pas beaucoup d'abréviations, parce que heureusement pour moi, je tape assez vite pour pouvoir suivre ce que racontent les profs, mais je dis, je ne sais pas, des choses comme la socio, par exemple, pour dire la sociologie. Alors, l'année dernière, j'ai retrouvé la socio dans plein de copies. Les gens se sont dit, chouette, on a vu socio dans la retranscription des cours, on va mettre socio aussi. Non, je mets ça parce que ça va plus vite à le taper, d'accord? Et c'est ce qu'on dit dans la conversation. Quand vous rentrez chez vous, vous dites à votre mère, la socio, c'est trop chiant, j'ai pas du tout aimé le cours aujourd'hui, d'accord? Bon, par contre, dans une dissertation où vous parlez de la discipline sociologie, vous dites sociologie, d'accord? Vous ne dites pas la socio durkheimienne. Bon. Donc ça, c'est pour le style, et vous avez aussi il est recommandé dans les dissertations d'utiliser un style indirect, c'est-à-dire ne pas utiliser le « je ». Vous n'écrivez pas un roman à la première personne, vous n'écrivez pas non plus un pamphlet ou un essai personnel, ni un article, vous êtes journaliste, etc. Donc il faut éviter le « je ». Alors vous pouvez utiliser le « nous », mais ça fait un petit peu pompeux. Ça fait un petit peu nous, Nicolas II, nous décidons de. Donc, on recommande, le plus commode, le plus simple, c'est d'utiliser le on. On peut considérer que, etc. On observe chez Durkheim, patati patata. D'autant plus que le je n'est presque jamais utile, parce que vous n'avez pas à raconter. Votre petite enfance ou d'autres épisodes de votre vie dans une dissertation, évidemment. Autre détail totalement formel, mais qui est très important pour la lisibilité de votre copie, s'il vous plaît, faites des choses aérées en sautant des lignes entre les différentes parties, pour qu'on puisse un petit peu se repérer dans votre texte. Et n'oubliez pas des choses tout à fait, basiques, comme mettre des majuscules en début de phrase, des points à la fin des phrases, etc. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours clair. Et puis, pour revenir à la question du ton, donc j'ai oublié de le dire, donc quand j'ai dit un ton académique, simple et rigoureux, sans poésie ni rien, ça implique aussi le respect d'un certain nombre de conventions au niveau de la ponctuation, par exemple. Éviter tous les signes d'affectivité, par exemple les trois petits points. Ou des points d'exclamation. N'est-il pas terrible de penser, comme Durkheim, qu'on est totalement déterminé par la société? Bon. C'est peut-être terrible, mais il ne faut pas le dire de cette façon, et il ne faut pas le marquer par des signes extérieurs qui montrent, les affects que ça provoque chez vous. Il y a d'autres manières de le dire dans un langage soutenu. Il peut sembler abusif de considérer, comme le fait Durkheim, que l'individu est entièrement déterminé par la société. Point. D'accord? Vous avez dit la même chose, mais ça passe très bien dans une dissertation. Tandis que si vous le dites de la façon précédente, ça ne passera pas du tout. D'accord? Bon. Alors, ces petites choses étant dites, c'est un guide d'introduction, si vous voulez, passons maintenant à la partie pratique de cette petite méthode, c'est-à-dire aux étapes de construction de votre dissertation. Vous avez votre sujet, le devoir commence, et qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment déjà ça se présente? En sujet de dissertation, comment il se présente? Alors il se présente de deux façons, essentiellement. Le plus souvent, un sujet de dissertation, c'est une question courte, qui fait une ligne, d'accord? Une question, avec un point d'interrogation. On vous demande de réfléchir à une question. Mais elle peut avoir d'autres formes. Ça peut être juste deux mots. Par exemple, je ne sais pas, les normes et le contrôle social. D'accord? Donc juste un groupe nominal. Ça peut être juste un concept. Par exemple, la socialisation. Mais normalement, vous n'aurez pas de sujet de ce type parce qu'ils sont encore plus compliqués. Il y a une dernière forme que peut prendre un énoncé de dissertation, c'est un énoncé qui comprend une citation. Vous pouvez avoir une citation d'un auteur, d'un sociologue, que on vous demandera de commenter. Donc la méthode que je vais vous exposer, la méthode de gestion que faire avec cet énoncé, comment construire une dissertation, je vais vous la faire à partir de la forme la plus fréquente des énoncés, c'est-à-dire une question. D'accord ? Et ensuite, je vais vous faire un petit complément sur le cas particulier des dissertations à partir d'une citation. D'accord ? Donc, mais bon, en fait, presque tout ce que je vais dire vaut pour toutes les dissertations qui peuvent exister, mais bon, il y a des toutes petites variations concernant cette forme du sujet. Donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous avez votre sujet, la toute première étape, c'est l'analyse du sujet. Vous commencez par analyser l'énoncé. Et je vous conjure de ne pas sauter cette étape qui ne se voit pas, si vous voulez, parce que c'est une étape pour vous, vous le faites au brouillon, et dans votre tête, vous réfléchissez. Mais si vous n'analysez pas bien le sujet, vous allez vous planter, parce que vous allez faire du hors-sujet. D'ailleurs, une dissertation vous propose toujours des questions très précises. Donc il faut traiter la question précise et pas autre chose. Alors pourquoi je le dis? C'est parce qu'un sujet de dissertation, ce n'est pas un thème à traiter dans sa totalité. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut vous proposer comme sujet la socialisation, mais c'est extrêmement rare et c'est à la limite quelque chose d'un peu bâtard. La plupart des fois, vous avez un thème, par exemple la socialisation ou l'école, je ne sais pas, ou l'État, que sais-je, etc. Et pour chaque thème général, vous avez une infinité de sujets précis de dissertation qui peuvent être formulés, une infinité de questions précises. Donc, je vous donne un exemple, vraiment une liste d'exemples au hasard sur le thème l'école. Il y a énormément de sociologues qui ont travaillé sur l'école sous des angles, avec des approches différentes. Donc par exemple, demander quelles sont les fonctions de l'école dans les sociétés contemporaines, ce n'est pas la même chose que de traiter un thème comme, un sujet plutôt, comme l'école et la socialisation. D'accord ? Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est encore complètement différent d'une question, par exemple, qui se formulerait de la façon suivante. L'école favorise-t-elle l'égalité des chances ? D'accord ? Vous voyez un peu l'idée ? C'est très simple comme idée. Sur le thème école, vous avez une infinité de questions précises. Donc l'énoncé, la formulation exacte de l'énoncé, délimite le territoire à l'intérieur duquel il va vous falloir rester. Si vous débordez, si vous traitez de l'école en général, vous êtes dans le hors-sujet, d'accord ? Donc c'est sanctionné. Donc il y a une règle qui caricature, vous savez ce qu'on dit dans les tribunaux, quand on jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc on dit que dans une dissertation, il faut traiter la question, rien que la question et toute la question, d'accord ? C'est-à-dire que ça vous indique les trois principaux problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est-à-dire traiter moins que le sujet, moins que la question, traiter juste un aspect partiel, donc ne pas dire tout ce qu'il faut, traiter plus que le sujet, c'est-à-dire être dans le hors-sujet, être trop large, ce qui n'a pas non plus, ou alors, bon, le cas extrême, c'est de traiter carrément autre chose, qui n'a rien à voir avec la question. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Donc ça, c'est du hors-sujet juste entier. Ça arrive parfois quand on ne comprend pas un terme de l'énoncé, par exemple. Surtout pour des non-francophones, d'ailleurs, ça arrive plus souvent, parce que parfois, bon, en général, il n'y a pas de terme particulièrement compliqué, c'est des choses qu'on a vues beaucoup de fois, mais bon, si jamais ça arrive. Si vous n'avez pas de dictionnaire et que vous ne connaissez pas du tout le mot, que vous ne l'avez jamais vu, posez la question. Ne vous lancez pas dans une dissertation sans comprendre. Alors, à quoi vous devez faire attention pour analyser l'énoncé ? Donc, vous avez votre énoncé, vous savez qu'il faut l'analyser. Donc, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous analysez ? Il y a deux choses. En sociologie, il y a essentiellement deux choses. Il y a plusieurs autres détails auxquels il faut faire attention dans d'autres disciplines, mais en sociologie, il y a essentiellement deux choses. Première chose, qui vaut pour toutes les disciplines d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les mots-clés. Les mots-clés, les héros de votre dissertation, les protagonistes. Les mots-clés qui sont compris dans le sujet. Alors en sociologie, bon, un mot-clé par exemple la société, ou l'individu, ou la déviance, ou les normes, etc. Ce genre de concepts, de notions. Les inégalités, la classe sociale, le chômage, l'immigration, la pauvreté, la corruption, etc. Tout ça peut être des mots-clés dans un sujet. Donc les analyser, ça veut dire les définir. Vous devez les définir. Et entre autres, vous devez voir s'ils n'ont pas des définitions multiples, s'ils n'admettent pas des, s'ils ne sont pas polysémiques, s'ils ne sont pas ambigus. Donc définir les mots-clés, et deuxième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est au rapport entre ces mots, comment ils sont reliés entre eux dans l'énoncé. On est toujours au niveau très 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 basique, mais c'est pareil, si vous vous trompez à ce stade-là, si vous n'avez pas compris quel est le lien logique entre les mots, donc quelle est la relation logique qu'on vous propose d'étudier, vous allez faire du hors-sujet. Donc attention à la formulation exacte. Et après, vous avez des détails qui ne sont pas vraiment pertinents pour la sociologie, c'est-à-dire qui valent pour certaines autres disciplines comme l'histoire, la délimitation dans le temps ou dans l'espace, si on vous propose de traiter, je ne sais pas moi, la société française entre 1914 et 1980, c'est 14-80, d'accord, c'est pas autre chose. Mais en sociologie, en général, on vous donne des sujets plus généraux, qui ne portent pas sur des laps de temps particuliers, ni sur des espaces particuliers. Enfin, ça peut arriver, dans ce cas-là, évidemment, il faut respecter la consigne, mais je ne pense pas que cette année, vous aurez des choses délimitées du point de vue spatio-temporel. Bon, donc voilà, par analyse du sujet, je comprends essentiellement la définition des termes clés et le rapport qui les unit dans une formulation exacte. Donc vous allez comprendre quelle est vraiment la question qu'on vous demande de traiter. Deuxième chose que vous faites, une fois que vous avez fait ça dans votre tête, sur une petite feuille, vous avez entouré des mots, vous avez fait des petites flèches. Deuxième chose que vous devez faire, c'est de rechercher des idées. Et c'est une étape qui se passe évidemment non pas sur votre copie, mais au brouillon. Vous cherchez des idées. Voilà, vous avez votre énoncé, vous avez la question exacte que vous avez essayé de définir, donc en analysant les termes, et vous mettez sur un brouillon en vrac, c'est-à-dire n'importe comment, toutes les idées qui vous viennent à l'esprit à ce propos, donc qui ont trait à ce que vous avez vu en cours, ou ailleurs d'ailleurs, que vous connaissez en sociologie, donc sur cette question. Donc, il ne faut évidemment rien rédiger, il faut juste noter, donc noter les idées, les concepts, les auteurs, les ouvrages sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, éventuellement. Les exemples aussi, parce que les exemples sont très importants. Et c'est de ce foisonnement d'idées, de cette énumération d'idées qui doivent normalement, espérons-le, vous venir à l'esprit à propos des questions, que vous arrivez à une étape tout à fait capitale dans la construction d'une dissertation, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle la problématique. La problématique, c'est un truc terrible qui pose toujours problème, comme son nom l'indique d'ailleurs. Donc la problématique, qu'est-ce que c'est la problématique? Une problématique, en tout cas, dans ce contexte. Comment on définit la problématique? La problématique, c'est un raisonnement, un mini-raisonnement, si vous voulez, qui vous sert à voir en quoi la question qui vous est posée, dans l'énoncé, n'est pas une question évidente. En quoi la question posée est une question qui n'admet pas une réponse univoque. C'est-à-dire que vous avez des questions normalement qui... alors j'ai peur de dire une bêtise, parce que bon... Qui n'admettent pas de... Comment dire? Qui n'impliquent pas forcément une problématique. Si on vous demande, est-ce que la Terre est ronde? Peut-on dire que la Terre est ronde? Normalement... Alors, je ne suis pas assez forte en physique ou je ne sais trop en quoi pour être sûre de moi, mais je pense qu'on peut dire que non, ça n'admet pas de problématique. On peut répondre, oui, on peut dire que la Terre est ronde. D'accord? En revanche, pour des questions qu'on va vous poser en sociologie pour les dissertations, la question admettra toujours des réponses plurielles. D'accord? Il n'y a pas de question qu'on va vous poser qui admette une question unique. D'accord? Peut-on dire que l'école favorise l'égalité des chances? Ce n'est pas une question qui admet une seule réponse. Oui ou non. D'accord? Donc la problématique vous sert à expliquer à votre lecteur pourquoi la question posée ne permet pas d'avoir de formuler une réponse univoque. Donc la problématique, c'est quelque chose qui montre la complexité du sujet, qui montre la complexité du sujet et les enjeux des réponses possibles. Je vous donne une piste pour trouver des problématiques, qui ne marchent pas pour tous les sujets malheureusement, mais qui marchent parfois pour certains sujets, surtout des sujets qui sont centrés autour de notions, de grandes notions. Je ne sais pas moi, la socialisation, ou l'identité, etc. C'est la définition des termes. Lorsque vous définissez des termes, souvent, vous voyez qu'une notion peut se comprendre en sociologie de manière plurielle. Il n'y a pas qu'une seule définition. Et de mettre en évidence ces différentes dimensions de la définition peut vous amener à voir pourquoi, du coup, on ne peut pas répondre à cette question d'une façon univoque. Si on peut comprendre une notion de plusieurs manières, évidemment, ça implique que les réponses à la question seront, elles aussi, plurielles. Donc, souvent, ça donne de bons résultats. En tout cas, c'est vraiment important de bien définir les termes, mais souvent aussi, ça vous donne des pistes pour la problématique. Alors, je vous donne un exemple d'énoncé et d'une suggestion de problématique. Je reprends le même exemple que j'ai choisi tout à l'heure. L'école favorise-t-elle l'égalité des chances ? L'école favorise-t-elle l'égalité des chances ? Alors, c'est une question qui, en tout cas en France, semble amener une réponse immédiate. Une réponse univoque. Laquelle ? Au contraire, si. Dans l'idéologie républicaine française, l'école, c'est un institut qui est fondé pour promouvoir la méritocratie et pour justement permettre à, quelle que soit votre origine sociale, quelles que soient vos ressources, d'accéder à la mobilité sociale. C'est-à-dire, l'école a été l'école libre, obligatoire et gratuite, a été mise en place en France sous la Troisième République, dans cette idée-là, dans l'idée de promouvoir la mobilité sociale et dans l'idée de donner à tous l'accès à des positions plus enviables dans la société. Donc elle a été mise en place pour favoriser l'égalité des chances. Mais vous avez bien raison, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout évident, en fait, c'est parce que vous êtes sociologue que vous le dites. La réponse n'est évidemment pas juste « oui, l'école favorise l'égalité des chances ». Pourquoi ? On a vu un petit peu, alors on n'a pas vu en détail, mais on a vu quelques idées qui peuvent vous montrer pourquoi ce n'est pas vrai. On l'a vu avec certains travaux qu'on a vus depuis le début de l'année, qui ont été évoqués dans le cours. Des travaux qui montraient que l'école introduit aussi un principe de sélection, un principe de classement des élèves. Elle introduit un principe de classement qui n'est pas forcément ou pas uniquement le classement selon la seule méritocratie. Donc le principe strictement méritocratique de l'école n'est pas entièrement évident. Ce qui vous ouvre, si vous voulez, à la possibilité de discuter ce problème de plusieurs points de vue. Vous pouvez discuter le problème du point de vue où, oui, l'école favorise l'égalité des chances, et puis d'un autre point de vue, où vous pourrez développer cette idée, qui est notamment contenue dans les travaux de Pierre Bourdieu, que le principe de classement de l'école s'appuie en grande partie sur des critères de jugement qui sont ceux de la classe dominante. Donc, le classement à l'issue de cette institution n'est pas forcément un classement uniquement méritocratique. Et par ce principe de classement, l'école contribue à reproduire les inégalités, et qui plus est, à les légitimer, c'est-à-dire à les présenter comme légitimes. D'accord ? Si j'occupe une bonne place dans la société, ce n'est pas parce que je suis fils de monsieur et madame, c'est parce que j'ai un beau diplôme. D'accord ? J'ai réussi, c'est moi, et uniquement moi. Bon, c'est un exemple donc, de problématique. Est-ce que vous voyez ce que c'est, la problématique ? Oui ? Tout le monde voit ce que c'est ? C'est ce qu'on va voir. En général, ça pose des tas de problèmes, malheureusement. Ce qu'il faut absolument éviter dans une problématique, je vous le dis tout de suite, parce que bon, mieux vaut le dire maintenant qu'après, c'est, voilà, vous avez, bon, on va voir comment on construit l'introduction d'une dissertation, mais lorsque vous devez exposer votre problématique, c'est de reposer la question de l'énoncé. D'accord ? Par exemple, l'école favorise-t-elle l'égalité des chances ? Donc vous êtes là, vous avez dit votre sujet, vous avez discuté, etc. Et puis vous dites, et puis, donc, la question se pose en définitive de savoir, est-ce que l'école favorise l'égalité des chances ? Vous voyez ? Il ne faut pas remettre comme problématique la question de l'énoncé. La problématique, ce n'est pas la répétition de la question. C'est le fait de montrer en quoi cette question n'autorise pas une réponse univoque. Deux problématiques. Pourquoi deux ? Alors, justement, oui et non, ce ne sont pas des problématiques. Oui et non, c'est des réponses possibles. La problématique, c'est juste la façon de montrer, oui, les quelques phrases, les deux, trois phrases dans lesquelles vous montrerez pourquoi la question « l'école favorise-t-elle l'égalité des chances » n'est pas une question évidente. Vous voyez, c'est ça la problématique. La problématique, c'est votre petit raisonnement qui va vous permettre ensuite de considérer des réponses différentes. D'accord ? Alors, donc une fois que vous avez trouvé votre problématique, et que vous l'avez bien formulée, vous passez à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la construction d'un plan. Construction d'un plan. Le plan est indispensable. Vous ne pouvez pas faire une dissertation sans avoir de plan. Sans plan, ce n'est pas une dissertation. D'accord ? Lorsque vous construisez votre plan, vous devez toujours vous souvenir de deux choses. Toujours garder à l'esprit deux choses. Première chose, c'est que ce plan soit en rapport avec le sujet. Parce que vous avez déjà réfléchi, vous avez trouvé des idées, et puis vous faites votre plan. Il faut revenir au sujet pour vérifier qu'il y a bien un lien. Vous n'êtes pas parti trop loin. Parce que ça arrive. Pour ne pas tomber dans le hors-sujet. Donc, toujours garder à l'esprit le sujet, l'énoncé. Est-ce que le plan reste en rapport avec le sujet ? Et deuxième chose, c'est est-ce que le plan est logique par rapport à la problématique que vous avez dégagée ? Donc le plan doit rester logique par rapport à la problématique que vous avez dégagée. Alors pourquoi il vous faut un plan ? Il vous faut un plan parce que dans une dissertation, vous n'avez pas qu'une partie. Vous avez toujours plusieurs parties. Vous ne pouvez pas faire une dissertation avec un seul bloc de raisonnement. D'accord ? Il y a toujours au moins deux parties. Et en fait, vous avez soit deux, soit trois parties dans une dissertation. Vous n'avez pas plus de trois parties parce que c'est trop. Vous n'avez pas les moyens en temps limité de faire plus de trois parties. Et puis, on considère que ça veut dire que vous vous éparpillez. Vous n'êtes pas assez synthétique. Il faut synthétiser la pensée, donc il faut se limiter à trois parties ou deux si vous n'avez pas, si la question vous amène plutôt à faire un plan en deux parties ou si vous n'avez pas le temps de faire quelque chose de plus long, plus détaillé en trois parties. Pourquoi vous avez toujours plusieurs parties dans une dissertation ? À votre avis ? Exactement, vous avez totalement raison. Vous avez toujours plusieurs parties parce que si vous n'avez qu'une seule partie, ça veut dire que vous n'examinez qu'un seul point de vue, une seule thèse. D'accord ? Une dissertation ne doit jamais être un pamphlet, c'est-à-dire quelque chose où vous défendez une idée, un point de vue unique. D'accord ? Une dissertation n'est jamais univoque. Il y a toujours plusieurs points de vue qui sont discutés de façon logique. Et c'est pourquoi vous avez plusieurs parties. Et c'est effectivement, vous avez totalement raison, la problématique qui vous montre justement qu'il y a plusieurs points de vue sur la question. Donc le point de vue final, qui est le point de vue que vous allez défendre, si vous voulez, qui va être votre conclusion, le point de vue final n'arrive qu'au terme d'un raisonnement logique, d'un raisonnement rhétorique. D'accord ? Vous essayez de démontrer le point de vue final et non pas de l'imposer en le choisissant comme seul point de vue. Alors, le plus souvent, du coup, en fait, pour énormément de sujets, pas pour tous, mais pour énormément de sujets, c'est Éric Le Tonturier qui vous en avait soufflé deux mots lorsqu'il était là. Très souvent, dans les dissertations, vous avez des plans de type dialectique. Dialectique. Vous connaissez tous la dialectique. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, plan dialectique, thèse, antithèse et synthèse. Donc, trois parties. C'est l'idéal, l'idéal type de la dissertation. La dissertation parfaite, selon les canons français, c'est une dissertation en trois parties, avec un beau plan dialectique, avec une belle thèse, une belle antithèse et une magnifique synthèse.
Dialectique négatif.
C'est-à-dire
Adorno, pas de synthèse.
Vous pouvez ne pas faire de synthèse. C'est-à-dire, vous pouvez vous limiter à deux parties, lorsque surtout vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, vous faites une thèse et vous faites une antithèse qui nuance cette thèse ou qui la, comment dire, qui vous amène à privilégier un autre point de vue. Et éventuellement, en conclusion, vous insérez quelques éléments de synthèse. Parce que souvent, on manque d'éléments pour faire la synthèse. En fait, le plan en trois parties, thèse, antithèse, synthèse, demande d'avoir quand même une bonne connaissance du sujet. C'est-à-dire, il faut avoir de la matière pour remplir trois parties. Surtout pour trouver un point de vue synthétique sur les deux, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on manque juste de connaissances, d'accord ? Surtout quand on commence, comme c'est votre cas pour la plupart. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire trois parties. N'essayez pas à tout prix de tomber dans le canon idéal typique de la dissertation dialectique. Parfois, deux parties peuvent très bien suffire. Il suffit que les deux parties présentent des points de vue différents, où il y a une discussion d'un point de vue, donc point de vue thèse et un autre point de vue antithèse, qui n'est pas forcément totalement contraire. Il ne faut pas voir ça comme une lutte schizophrène entre deux conceptions qui se contredisent entièrement, il n'y a pas de point de... D'accord ? Ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez très bien avoir une thèse et puis une série d'éléments qui la nuancent, qui la précisent, ou qui la font voir d'un côté un peu différent. Bon, donc vous pouvez très bien avoir ça dans deux parties, et éventuellement, comme je l'ai dit, insérer quelques éléments synthétiques si vous en avez en conclusion. Bon. Si vous pouvez faire trois parties, c'est très bien. Mais bon, il faut que ce soit des vraies parties. Alors, si vous suivez un plan dialectique en deux, trois parties, en deux parties c'est encore plus flagrant, il faut organiser votre thèse et votre antithèse, et votre synthèse bien sûr elle vient à la fin, donc tout va bien, mais votre thèse et antithèse doivent être organisées de telle façon à ce que la progression vous amène logiquement au point de vue que vous voulez défendre. C'est un principe de bon sens complet, c'est-à-dire il ne faut pas commencer par ce que vous voulez défendre. Parce que si vous commencez par ce que vous voulez défendre, ensuite vous serez amené à discuter le point de vue contraire, puis ensuite vous allez conclure, ben vous voyez, donc en fait c'est moi qui avais raison tout au début quand je disais que... Et ça fait quelque chose qui n'est pas très élégant du point de vue de la lecture, de la compréhension, etc. Donc, il vaut mieux commencer par quelque chose contre quoi vous voulez construire votre argumentation pour arriver à la fin, sur le principe de l'argument croissant, si vous voulez, vers ce que vous voulez défendre. Ce n'est que de la logique la plus pure. Bon. D'une façon générale, donc je vous ai dit qu'il faut vous souvenir de la problématique, et essayer de garder une logique par rapport à la problématique, le plan que vous adoptez doit correspondre à la problématique, c'est-à-dire chaque partie doit correspondre à un niveau du questionnement soulevé par la problématique. D'accord ? Chaque partie doit avoir un lien avec la problématique, donc avec ce que vous avez montré de la complexité de la question. Alors attention quand même, tout ce que je vous dis là, c'est l'idéal type de la dissertation, et c'est aussi un idéal type d'énoncé, c'est-à-dire qu'il y a des énoncés qui n'invitent pas à adopter ce genre de plan. C'est-à-dire le plan dialectique marche pour beaucoup d'énoncés, mais pas pour tous. Un plan dialectique marche généralement pour les questions auxquelles on peut justement répondre par un oui ou un non. L'école favorise-t-elle l'égalité des chances ? Peut-on dire que l'identité est socialement construite. D'accord ? Vous avez toute une série de questions possibles qui sont formulées de façon différente. En particulier, si vous avez un sujet qui commence par « En quoi peut-on dire que l'école reproduit les inégalités sociales. Si on vous demande en quoi le plan dialectique ne s'impose pas, puisqu'on ne vous demande pas, si vous voulez, dans l'énoncé, de discuter la véracité d'une thèse. On vous demande plutôt de considérer les différents points de vue possibles sur la même thèse, sur la même idée. C'est-à-dire, on part de l'idée que l'école peut reproduire les inégalités sociales, et on vous demande en quoi, comment. Donc, à vous de voir plusieurs aspects dans ce processus. À vous d'expliquer la pluralité des voies par lesquelles l'école peut reproduire les inégalités sociales. Par contre, quand vous avez des sujets de type « peut-on dire que ?», là, évidemment, le plan dialectique est à vous. D'accord. Bon, une fois que vous avez trouvé ce plan général, c'est-à-dire la répartition en parties, vous avez votre problématique, vous avez trouvé votre plan, deux ou trois parties, donc vous avez à peu près leurs intitulés en tête, et il vous faut remplir, c'est-à-dire faire un plan détaillé. Et bon, après, on ne peut pas, je ne sais pas ce que vous allez faire dans l'intimité de votre feuille, ce que vous allez faire de l'examen, donc je ne peux pas vous dire, il faut le faire sur une feuille séparée, si vous voulez, vous rédigez directement, il y a des gens qui rédigent très facilement. Mais en général, c'est quand même beaucoup plus prudent de d'abord remplir votre plan détaillé avec, de façon très schématique évidemment, en essayant de voir ce que vous allez mettre dans telle ou telle partie. C'est particulièrement utile pour éviter ensuite les déséquilibres entre les parties, et aussi pour voir parfois que vous vous êtes engagé sur un mauvais chemin, c'est-à-dire que parfois vous pouvez vous rendre compte que voilà, vous avez pensé à un plan, et en fait vous n'avez presque pas d'éléments pour telle ou telle partie. Vous avez beaucoup d'éléments pour une partie, et puis presque rien pour l'autre. Et c'est en remplissant que vous vous en rendez compte. L'idée vous semblait bien, puis en fait, quand vous essayez en pratique de trouver des choses à dire, vous n'en trouvez pas. Bon. Du coup, il faut changer le plan, évidemment, dans ce cas-là. Donc, faire un plan détaillé. Ce qui revient, en fait, à classer les idées que vous avez déjà trouvées, en général, pendant la phase de recherche des idées. Vous savez, au début, vous jetez en bras toutes les idées, mais là, il faut les classer dans les parties, les organiser. Les organiser pour arriver à la fin de tout le devoir, donc vous avez votre plan détaillé, à la fin, il doit vous amener à une réponse. Réponse à la question posée. Une réponse logique. Vous avez démontré, par tout un raisonnement logique, vous avez démontré un point de vue qui vous semble le plus, comment dire, le plus approprié. Donc attention, c'est quelque chose d'assez, ce qui est assez délicat, c'est de garder un équilibre entre d'une part un esprit d'objectivité, c'est-à-dire il ne s'agit vraiment pas de critiquer un auteur d'une façon, comment dire, affective, d'accord ? J'ai eu des choses l'année dernière, il vaut mieux vraiment éviter l'approche de Weber, ce genre de choses. Évidemment, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de montrer les différents points de vue sur une question qui existe dans le champ de la sociologie. Mais de l'autre côté, il ne s'agit pas non plus de ne jamais trancher. C'est-à-dire, on peut penser ça, et on peut aussi penser ça, et on peut aussi penser ça. D'accord ? Votre devoir, la façon dont il est organisé, doit vous amener à quelque chose qui sera votre thèse. D'accord ? Qui sera votre thèse, tout simplement, par la façon dont vous construisez le devoir. C'est ça qui va vous faire prendre parti, si vous voulez. Bon, et cette réponse à la question va vous servir de base pour la conclusion. Alors, maintenant, la question suivante, c'est comment vous présenter tout ça. Donc, vous avez vos parties, donc ça c'est très bien, il suffit de les rédiger, mais vous avez aussi deux éléments au début et à la fin de la dissertation qui sont incontournables aussi. C'est l'introduction et la conclusion. Et l'introduction et la conclusion sont très, 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 très importantes dans la façon dont on juge une dissertation. Donc, il faut faire très attention aux éléments que vous mettez dedans. Et vous allez voir que quand je vous dis que c'est un exercice codifié, c'est un exercice codifié. Il n'y a pas 36 façons de faire une introduction, il y en a une. D'accord ? Une. Après, elles sont toutes différentes, parce que vous allez trouver des problématiques différentes, vous allez trouver des approches différentes, mais la structure est la même. Bon. Alors, vous avez un certain nombre de points à mettre dans toute introduction, et c'est très simple. À chaque fois que vous le faites, vous gagnez des points. Et un barème. Et si vous n'avez pas un élément dans l'introduction, ça vous enlève des points. Donc c'est trop bête. Donc au début du devoir, écrivez ces petits points sur une feuille et puis après cochez. J'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça. C'est trop bête de s'imprimer, d'accord ? Alors, comment on construit une introduction de dissertation ? Donc déjà, on la construit toujours après avoir fait le plan, et après avoir fait le plan détaillé, parce qu'une introduction suppose que vous savez déjà quelle est votre problématique et quel sera votre plan. Donc vous ne pouvez pas la faire avant, vous devez la faire après. Donc vous faites votre plan brouillant et ensuite vous rédigez votre introduction. Quand vous avez du temps devant vous, c'est bien de rédiger l'introduction et la conclusion entièrement, et puis ensuite les recopier, parce que c'est des choses un peu compliquées où il faut... agencer plusieurs éléments, vous allez le voir, mais bon, je sais bien que parfois on n'a pas le temps, donc c'est juste une suggestion. Donc, quels sont les éléments à mettre dans une introduction ? Pour que ce soit facile de vous en souvenir, je vous donne un moyen mnémotechnique. L'introduction a une forme géométrique. Elle a une forme géométrique. J'ai pas de trait. Bon, c'est pas grave, c'est facile à dire. Elle a la forme d'un triangle. Elle a la forme d'un triangle qui pointe vers le bas. D'accord ? Comme ça. Un entonnoir, vous savez, pour verser la forme d'un triangle. Elle a la forme d'un triangle parce qu'elle va du plus général au plus particulier. Du plus vague au plus précis. Donc ça peut toujours vous permettre de... Ça peut vous permettre de comprendre est-ce que vous êtes dans le bon raisonnement ou pas dans une introduction. Donc les éléments qu'on donne vont du plus général au plus particulier. Le premier élément qui doit être dans une introduction. Première chose, par quoi on commence une introduction ? On ne commence pas une introduction par l'énoncé. On ne commence pas une introduction par la problématique, ni par le plan. Jamais. Jamais. On commence l'introduction par ce qu'on appelle une attaque ou une accroche. Une attaque ou une accroche. Alors, il y a des écoles différentes. Certains disent attaque, d'autres disent accroche. Mais c'est la même chose. Une attaque ou une accroche. Alors, qu'est-ce que c'est une attaque ou une accroche ? C'est quelque chose qui doit vous permettre d'amener le sujet. On ne commence pas par le sujet. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas élégant. Parce que le sujet ne doit pas tomber du ciel. D'accord ? L'énoncé ne doit pas tomber du ciel. L'attaque ou l'accroche vous permet d'introduire le sujet. Donc, c'est quelque chose qui est différent à chaque fois. On ne peut pas donner d'accroche type. Vous pouvez commencer par... souvent, ce qui est considéré comme joli, on peut commencer par un paradoxe. Mais il ne faut pas en chercher un à tout prix, parce que des fois, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, ça la fout mal. Donc, vous pouvez commencer par une citation. Parfois, vous avez des citations qui sont en rapport avec le sujet et qui vous permettent de l'amener. Mais c'est très difficile parce que j'imagine que vous ne connaissez pas par cœur des milliers de citations de sociologie. Et une citation doit toujours être précise. C'est-à-dire, si elle est imprécise, il ne faut pas la mettre. Et en plus, elle doit être en rapport avec le sujet. Il ne faut pas non plus dire « Le jour se lève », a dit Durkheim. Bon, d'accord. Il l'a peut-être dit, mais vous ne savez pas à quoi ça se rapporte. Donc, une citation, ou alors, ce qui est le plus simple et qui marche pour un coup toujours, par un exemple. C'est-à-dire quelque chose qui est tiré de la vie réelle, de l'actualité. Un exemple qui est en rapport avec le sujet et qui vous permet d'amener l'énoncé exact. D'accord ? On appelle ça une petite scène. Vous voyez ce que c'est une attaque, une accroche ? Oui ? J'avais un professeur dans le temps, quand j'étais jeune, qui disait que une accroche, c'est de raconter un épisode de sa petite enfance ou de donner une citation de Mao Zedong. Voilà. Comme ça, c'est une blague de sa part. Ça vous permet aussi de mémoriser. Voyez ? Épisode de petite enfance, citation de Mao Zedong. Bon. Donc vous avez fait votre attaque, votre accroche. La chose suivante, puisque l'attaque vous permet d'amener le sujet, l'élément suivant c'est le sujet. D'accord ? Vous avez amené le sujet, vous avez mis l'attaque pour l'amener, donc il faut l'amener, il faut le mettre. Donc vous avez fait votre attaque et ensuite vous énoncez le sujet. Lorsqu'il s'agit d'une question, des énoncés sous forme de question qui fait une ligne, l'énoncé doit être mis de façon littérale. Vous devez le mettre. D'accord ? Vous devez le mettre en entier. Le seul cas où ça pose problème, c'est lorsque le sujet est trop long. Lorsque vous avez des sujets longs, ce qui arrive parfois, surtout si vous avez une citation dans le sujet, auquel cas, si la citation est trop longue, vous pouvez la résumer en une phrase, d'accord, au lieu de la recopier tout entière. Mais, d'une manière ou d'une autre, vous énoncez le sujet. Vous dites quel est le sujet. Et même pour une citation, si elle n'est pas trop longue, le mieux c'est de le recopier. Par exemple, si dans la citation on vous dit il faut traiter les faits sociaux comme des choses, Durkheim, commentez cette phrase en vous appuyant sur vos connaissances, il faut lui dire, d'accord ? Oh, Durkheim remarque qu'il faut traiter, entre guillemets, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. D'accord ? L'entier. Bon. Donc, attaque et énoncé. Troisième élément, donc on en est à deux, troisième élément, c'est la définition des termes clés. Vous devez définir, donc vous l'avez fait pour vous, mais il faut aussi le faire dans l'introduction. Il faut définir les mots clés. Brièvement, il ne faut pas faire un roman sur chaque mot, parce que souvent on peut le faire, mais normalement ça sera fait dans le corps du devoir. Donc là, vous définissez brièvement les mots clés. Pour expliquer le sens des termes, ce qui vous amène normalement, plus ou moins naturellement, selon les cas, au quatrième élément qui est la problématique. La problématique peut se présenter de différentes manières. Vous pouvez la présenter comme des questions, sous forme des questions. Deux questions par exemple, ou trois, ou une si vous y arrivez. Mais attention, hein, ce n'est pas la même question que l'énoncé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas recopier la question d'énoncé, c'est une autre question. C'est une question sur la question, qui se demande pourquoi on ne peut pas répondre de façon univoque. Ou alors, vous pouvez très bien ne pas faire de questions, vous pouvez très bien faire des phrases. Donc, la problématique peut prendre la forme de plusieurs phrases, d'une ou plusieurs phrases qui expliquent en quoi la question posée admet des... comporte une complexité et admet donc des réponses plurielles. Donc on en est à 4, attaque, énoncé, définition, problématique. Et le cinquième élément, qui découle tout naturellement aussi de la problématique, c'est l'annonce du plan. Exact, comme vous voyez, il n'y a qu'un seul modèle de l'introduction, parce que c'est le seul modèle logique. Ce n'est pas du tout arbitraire. Donc l'annonce du plan qui est indispensable. Tous ces cinq éléments sont indispensables. De toute façon, je vous le dis, c'est comme ça. À chaque fois que vous en mettez un, du moment où il a un sens, bien sûr, ça vous rajoute des points. Mais si vous ne le mettez pas, ça vous enlève des points. Si vous ne le mettez pas, ça ne peut être ni bon ni mauvais, c'est juste absent. Donc voilà. Bon, l'annonce du plan en fait partie. L'annonce du plan est indispensable, même si après, évidemment, il y a votre plan dans le devoir, mais il faut l'annoncer. Alors comment vous l'annoncez ? Vous l'annoncez avec des phrases. Vous ne l'annoncez pas en faisant un petit schéma, alors grand 1, grand 2, etc. Vous l'annoncez avec des phrases. Elles peuvent être lourdes, ces phrases, c'est pas très grave. Surtout pour des gens qui ne sont pas francophones de naissance, on ne va jamais vous sanctionner parce que la phrase n'est pas entièrement élégante. Donc allez-y, dites-le. D'abord, on va traiter blablabla. Bla, bla. Ensuite, nous regarderons blablabla. Bla, bla. Pour finalement, etc. Il n'y a pas de souci. Faites-le comme ça. Ou premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ça me va très bien aussi. L'essentiel, c'est que ce soit clair et que ce soit des phrases. D'accord ? Bon. Donc, voilà, les cinq éléments qui composent une introduction. Dans l'annonce du plan, il faut essayer de formuler les contenus des parties d'une façon très précise. C'est-à-dire que votre lecteur... à la lecture de votre annonce, doit comprendre de quoi vous allez parler dans chaque partie. D'accord ? Il faut que ce soit clair. Donc, essayez d'être clair, mais pas trop long. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'annonce du plan fasse une demi-page. D'accord ? Il ne faut pas écrire un paragraphe sur le contenu de chaque partie. C'est une phrase. C'est ensuite que vous allez développer. Il faut juste que ce soit clair, mais pas trop détaillé, évidemment. Et puis, je le dis parce que j'en ai eu plusieurs l'année dernière, donc après cette annonce du plan, il ne faut pas faire, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est comme ça qu'on me demande dans, je ne sais pas, ailleurs, j'en ai aucune idée. Parfois, après l'introduction, les gens faisaient un schéma du devoir. Ils faisaient grand 1, grand 2, grand 3, et puis après, ils passaient à leur grand 1. Ce n'est pas utile. Vous avez annoncé votre plan, et vous passez directement à votre grand 1. Voilà. Pourquoi faire de schéma de devoir entre l'introduction et le corps du devoir ? Est-ce que vous avez des questions sur l'introduction ? Oui. Non, ce sont des exemples que je donne. Après, vous pouvez trouver des façons plus originales. Je donne des pistes, d'accord ? Bien sûr que non, vous pouvez vous penser à quoi ? Oui, voilà, c'est difficile de prévoir. Évidemment, ça dépend du sujet. Non, c'est quelque chose qui vous permet d'amener le sujet et qui est plus général que le sujet. Vous abordez le thème, et puis ensuite, vous passez au sujet, ensuite à votre problématique, etc. Vous voyez ? Deuxième élément que vous devez rédiger, avant de commencer votre rédaction finale, enfin que vous devez rédiger ou que vous devez essayer de rédiger, parce que c'est pareil, des fois vous n'avez pas le temps, mais c'est quand même important, c'est la conclusion. La conclusion, c'est important parce que c'est la dernière chose qu'on lit de vous. Donc c'est la dernière impression que vous laissez. Alors une conclusion, qu'est-ce que vous devez mettre en conclusion ? Il faut conclure en conclusion. Effectivement, donc vous donnez la réponse à la question, qui est la réponse logique par rapport au raisonnement que vous avez fait. C'est-à-dire, il ne faut pas reprendre le raisonnement que vous avez déjà fait. Il ne faut pas répéter dans la conclusion ce que vous avez déjà dit. Il faut juste dire en une phrase ou deux quels sont vos principales, les principaux axes de réponse. Ou alors, si vous reprenez ce que vous avez dit, il faut que ce soit vraiment schématique. Donc, même si on peut penser que blabla, en une phrase, il faut néanmoins considérer plutôt que, etc. Oui. Bon, donc, réponse. Mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que la conclusion a aussi une forme géométrique, comme l'introduction, ça tombe très bien. Et devinez quelle forme a la conclusion ? La forme d'un triangle. Mais, inverse, la forme d'un triangle qui s'élargit. Parce qu'il faut aller du particulier, c'est-à-dire votre dissertation, au plus général. C'est-à-dire, il faut ouvrir la discussion. Il y a deux éléments dans une conclusion. Deux. Il y en a moins que dans l'introduction. Il y a la réponse et il y a l'ouverture. Le même professeur mémorable disait qu'il fallait fermer la porte et ouvrir la fenêtre. D'accord ? C'est-à-dire, on ferme le débat et ensuite on l'élargit vers d'autres horizons. D'accord ? Vers d'autres horizons. C'est-à-dire, il faut montrer qu'avoir répondu à cette question particulière vous ouvre vers d'autres discussions sur le même thème, plus larges ou différentes, d'accord ? Qui abordent la question d'un autre côté, sous un angle nouveau. C'est-à-dire que votre réponse à la question peut alimenter le débat général sur la vie, la mort, l'amour, etc. Non, je plaisante, justement, il ne faut pas du tout tomber dans la vie et la mort, l'amour dans la conclusion, parce que des fois c'est ce qui se passe. Il y a des tas de conclusions qui se terminent par des choses très lyriques, c'est-à-dire des gens font un effort pendant tout le devoir d'éviter les trucs lyriques, puis à la fin, ils se lâchent dans l'ouverture, parce que c'est des ouvertures, c'est beau et tout, et donc ils font des trucs. Et n'est-il donc pas là la véritable liberté humaine et la grandeur de l'homme, et ils mettent un grand point d'exclamation, et ils adorent aussi mettre trois petits points. Parce que c'est la fin, on a ouvert et on voit la ligne bleue des vols derrière. Donc évitez les trois petits points même à la fin, d'accord ? Donc ça vaut pour tout le devoir, donc à la fin c'est pareil, il ne faut pas de trois petits points. Pas de trois petits points. Alors. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, donc si vous suivez ma réflexion, vous étiez là toujours dans le brouillon. Vous avez rédigé votre introduction et votre conclusion au brouillon, parce que vous avez plein de temps devant vous, et que vous faites des dissertations super vite. Bon, donc ensuite, vous faites la rédaction finale, donc vous rédigez votre introduction sur le beau papier que vous avez. Ensuite, vous rédigez le corps du devoir, c'est-à-dire vos parties. La partie numéro 1, la partie numéro 2, et éventuellement la partie numéro 3, quand vous en avez 3. Puis à la fin, vous rédigez votre conclusion, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de la rédaction finale ? Essentiellement, deux choses. Première chose, c'est qu'il faut garder en tête l'équilibre entre les parties. Il faut que votre devoir soit équilibré. Et ça, en général, vous pouvez vous en rendre compte dès la construction du plan. Parce que vous avez assez d'éléments pour chaque partie. Donc, les différentes parties doivent avoir, grosso modo, une longueur équivalente. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire au paragraphe près, laisser tomber à la ligne près. Évidemment, personne ne va compter le nombre de mots. Il faut juste que ça ne soit pas complètement disproportionné. Il ne faut pas une première partie qui fait une demi-page et la deuxième qui en fait quatre. D'accord ? Ça montre en général que vous n'avez pas, que votre plan ne marche pas, parce que vous n'avez rien à dire sur une des parties. Donc, grosso modo, les différentes parties doivent avoir des tailles comparables. Puisqu'on est dans la morphologie de la structure, vous avez donc des parties comparables. Vous avez l'introduction qui doit faire à peu près un cinquième du devoir. Ne pas dépasser un cinquième, en général. Donc, il ne faut pas faire des introductions trop longues, mais quand même, ce n'est pas rien, parce que vous avez beaucoup d'éléments à mettre dedans. Donc, une introduction fait facilement une page. Vous voyez, vous avez votre page, bon, peut-être un peu plus courte que la page, ça dépend de votre écriture aussi, bien entendu. Mais un cinquième du devoir, c'est très fréquent. Et puis, la conclusion, elle n'est pas longue. Elle est bien plus courte que l'introduction, parce qu'il y a moins d'éléments. Elle fait un paragraphe, un gros paragraphe ou un petit, selon votre inspiration. Mais elle n'est pas longue, c'est un paragraphe. Et puis, dernière chose à propos de la rédaction du corps du devoir, donc de vos parties. En France, quand on fait des dissertations, au début, on marque les titres des parties. C'est-à-dire que vous avez votre introduction avec votre annonce du plan qui est rédigée. Puis ensuite, quand vous passez aux parties, vous mettez grand 1, chiffre romain, et puis vous mettez le titre de la partie, d'accord ? La socialisation comme conditionnement de l'individu, je ne sais pas. Bon, ensuite, vous avez votre partie, vous sautez une ligne, vous mettez grand 2, une conception interactionniste de l'interaction. Bon, j'en manque complètement, etc. Donc, en première année, ici, on vous demande de noter les titres des parties. En deuxième année, après, on vous demande de ne plus les noter, parce qu'en général, en France, c'est... dans le supérieur, on ne les marque plus, parce que la dissertation doit être très fluide. Mais en première année, quand vous n'en avez jamais fait normalement de dissertation, je préfère que vous les marquiez, parce que ça structure la chose. Et même pour moi, ça permet de suivre plus facilement ce que vous dites. Donc, vous notez les titres avec des chiffres romains. Restons dans l'homogénéité. Soyons entièrement déterminés par les règles de l'exercice. Donc, les titres. Qui évidemment ne doivent pas être trop longs. Ce ne doivent pas être des titres qui prennent le pas sur le développement. Une ligne, ça suffit. Donc c'est ce qu'on appelle le plan apparent, avec des titres de partie. Mais même si le plan est apparent, n'oubliez pas de le marquer aussi visuellement, c'est-à-dire d'aérer, sauter des lignes, isoler vos parties. Parce que sinon c'est extrêmement difficile à corriger, à lire, etc. Bon, donc, au bout de tout ce processus, lorsque vous avez fini, L'idéal type d'un examen, c'est évidemment d'avoir à la fois 5-10 minutes pour tout relire, pour corriger toutes les erreurs d'orthographe et de grammaire qui n'arrivent virtuellement jamais. Donc, bon, je le dis comme ça. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Vous n'aimez pas l'idée d'ouvrir le débat ? Oui, elle est indispensable. Alors, je l'avais dit en tout début, le volume moyen, c'est-à-dire en 4 heures, ce que vous aurez à l'examen, c'est en général 4-5 pages, à 4. Vous savez, vous aurez des pages avec des lignes déjà préfaites. les copies d'examen. Et ça dépend de votre écriture. Il y a des gens qui écrivent comme une mouche, et puis il y a des gens qui se disent 4 pages faciles. C'est 3 paragraphes. Bon, donc je ne peux pas vous donner de longueur imposée. Ce qui compte, ce n'est pas de faire du volume. On s'en fout du volume. Ce qui compte, c'est que ça ait du sens, que vous racontez, que ce soit clair et que ce soit... Dernière chose à ne pas oublier. Ouh, s'il vous plaît. Je vois que la question de l'écriture, je ne sais pas pourquoi, vous a mis en joie. Dernière chose à ne pas oublier dans une dissertation, c'est qu'une dissertation ne peut pas être uniquement théorique. C'est-à-dire que vous devez vous appuyer sur des auteurs, sur des théories que vous avez vues, mais vous devez aussi vous appuyer sur des exemples. Et les exemples peuvent être aussi bien des exemples qui sont pris par les auteurs, parce que les auteurs prennent des exemples pour illustrer leur raisonnement, mais vous pouvez aussi prendre des exemples autres, c'est-à-dire les vôtres. Ce qui ne veut pas dire raconter un épisode de votre petite enfance, évidemment, ce qui veut dire plutôt de prendre des exemples de l'actualité, de la vie sociale telle que vous l'observez, puisque vous êtes aussi, vous avez des connaissances, donc n'hésitez pas à les utiliser. D'accord ? Alors avant de faire une pause, on est large, il nous reste un quart d'heure. Avant de faire une pause, je fais le dernier petit point, c'est-à-dire le point sur le cas particulier d'une dissertation à partir d'une citation. Si vous avez une citation dans le sujet, par exemple, Émile Durkheim a dit, il faut traiter les faits sociaux comme des choses, fermez les guillemets, en vous appuyant sur vos connaissances, discutez cette proposition. D'accord ? Exemple de sujet de dissertation avec citation. L'analyse de l'énoncé, c'est-à-dire la chose qu'on doit faire toujours, sur n'importe quel énoncé, ici, elle prend un sens, si vous voulez, encore plus concret. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de comprendre la citation. Si vous n'avez pas compris ce que dit l'auteur, c'est fichu pour vous. D'accord ? Vous n'allez pas pouvoir pouvoir produire quelque chose qui est en sens. Donc il faut vous assurer, avant de vous lancer dans la recherche des idées, de problématiques, de plans, il faut vraiment vous assurer que vous avez bien compris ce que l'auteur voulait dire dans cette situation. Donc, analyse de la citation. Ici, encore plus fondamental si c'est possible. Et notamment, lorsque vous analysez une citation, il faut faire attention au contresens. C'est-à-dire, alors, si vous comprenez la citation à l'envers, c'est très mal parti aussi. Et pour éviter les contresens, ce qui vous sert, ce qui vous est très utile, c'est évidemment de connaître l'auteur en général. C'est-à-dire, plus vous connaissez de choses sur la personne qu'on cite, moins vous risquez de vous embarquer dans des interprétations erronées. C'est-à-dire, si vous connaissez en gros ce que raconte un auteur, lorsqu'on vous donne une citation, il y a plus de chances que vous compreniez correctement le sens de ses propos. Alors ici, si jamais vous avez des sujets de dissertation avec une citation, on ne va pas vous donner de citation piégée. Parce que des fois, c'est un truc que font les enseignants malins, ils donnent des citations piégées, c'est-à-dire ils font des citations qui, justement, vont à l'encontre de ce que l'auteur pense en général. Vous savez, comme Durkheim, par exemple, je vous avais cité l'autre jour, je l'ai mis en ligne, le petit topo sur la convergence entre Durkheim et Weber. Durkheim a dit, il faut ressentir la religion pour pouvoir la comprendre, etc. Bon, si vous ne connaissez pas du tout ce que pense Durkheim en général, vous pouvez vous partir sur l'idée que Durkheim est un grand sociologue, un grand adepte de la sociologie compréhensive, et qu'il est pour la rentrer dans les raisons intimes de l'acteur, etc. Ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt atypique pour lui. Donc, ici, on ne va pas vous donner ce genre de choses, évidemment, parce que, quand même, vous n'êtes pas à ce point... avancer dans la matière pour qu'on vous sorte des choses pareilles. Donc normalement, les citations, si jamais il y en a, ne seront pas truquées. Elles auront le sens qu'elles ont. Il ne faudra pas se demander est-ce qu'il y a un sens caché. Il n'y aura pas de sens caché. Par contre, il faudra faire attention au sens propre. D'accord ? Bon. Donc, comprendre le sens de la citation. Alors, à partir de là, si vous voulez, c'est presque plus simple de faire une dissertation avec une citation. Parce que la citation vous propose déjà une thèse. La, citation, il faut traiter les faits sociaux comme des choses, c'est une thèse sur la méthode sociologique. C'est une approche qui est résumée ici en très peu de mots, bien sûr, mais ça vous indique déjà quelle est l'une des thèses que vous devrez considérer. Donc, la thèse de l'auteur, il faut évidemment la considérer, l'expliciter dans votre dissertation. Vous ne pouvez pas faire une dissertation sans expliciter la citation. Et puis, une fois que vous avez la thèse, ici c'est facile de trouver l'antithèse. Enfin, facile ou pas facile, mais en tout cas, bon, à vous de la trouver. Et une synthèse éventuellement, si vous pouvez aussi. Et lorsque vous faites votre thèse et votre antithèse, vous n'êtes évidemment pas obligé de vous restreindre au seul auteur de la citation. C'est-à-dire que si vous avez une citation de Durkheim qui dit « il faut traiter les faits sociaux comme des choses », si vous en faites, vous faites de cette thèse l'objet de votre première partie ou deuxième partie, comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de ne parler que de Durkheim, sous prétexte que c'est sa citation. C'est sa citation, mais vous pouvez y intégrer toutes les autres, tous les autres éléments qui renforcent sa thèse. C'est-à-dire, on peut très bien y parler, je ne sais pas, de le métier de sociologue, où Bourdieu, Chambordon et Passeron exploitent la même idée, d'accord ? Il faut traiter les faits sociaux avec objectivité, établir une distance avec son objet, patati patata, d'accord ? Donc, vous n'êtes pas obligé de vous dire, voilà, c'est Durkheim, c'est sa citation, alors j'y touche pas, voilà, je parle que de Durkheim. Évidemment que non. Dans la thèse, comme dans l'antithèse, vous pouvez vous servir de tout ce que vous connaissez, et qui va dans le sens, évidemment, logique de la chose. Bon, donc à partir de là, le reste est pareil. Vous avez de la même façon, souvent vous avez soit un plan dialectique, souvent, soit non dialectique selon la formulation de la consigne qui vient avec la citation. C'était pas un truc d'Edith Piaf, non ? Bon. Donc deux ou trois parties, de la même façon. Deux ou trois parties. Et souvenez-vous toujours des deux erreurs qu'on peut faire quand on fait une dissertation sur une citation, qui sont à peu près les mêmes que quand il n'y a pas de citation, mais n'empêche que ici ça prend un sens un peu différent. Première erreur, c'est ne pas comprendre et ne pas analyser la thèse de l'auteur. Voilà, vous avez la thèse et puis vous vous dites, ok, je vais faire une dissertation sur un truc qui est en rapport, mais vous oubliez un peu la citation. Vous voyez, vous partez sur une idée connexe. Et vous oubliez la thèse. Non, il faut analyser, il faut comprendre la thèse de l'auteur et l'analyser. Donc si vous partez loin de la citation, vous êtes hors sujet, évidemment. Et puis deuxième erreur majeure, c'est ne pas disputer cette thèse, c'est-à-dire tomber dans le point de vue unique, donc dans le pamphlet. Alors vous pouvez ne pas la disputer, enfin, disons, cette erreur, elle peut avoir un double visage, soit vous êtes totalement d'accord, vous vous dites, mais oui, Durkheim, il a totalement raison. Il faut discuter, il faut prendre les faits sociaux comme des choses. Donc voilà, je vais faire toute ma dissertation va être consacrée à la discussion de cette thèse, mais du point de vue, disons, positif. Vous faites un pamphlet pro-Durkheim, d'accord ? Ou alors, au contraire, vous vous dites, non, c'est n'importe quoi, il n'a rien compris, vaut mieux éviter l'approche de Durkheim. Et vous faites une dissertation qui est entièrement consacrée à détruire complètement cette pauvre citation. Donc les deux, évidemment, sont à éviter. Vous ne pouvez pas vous mettre à critiquer une thèse si vous ne l'expliquez pas, d'accord ? Par contre, vous n'êtes pas obligé de suivre ce mouvement-là. Vous n'êtes pas obligé d'abord d'expliquer et ensuite de critiquer ou de nuancer. Vous pouvez très bien, si vous voulez conclure sur l'auteur, ce qui peut arriver, si vous vous sentez plus proche de cette façon de voir, vous pouvez commencer par l'antithèse, entre guillemets, c'est-à-dire en expliquant contre quelle tendance, l'auteur a construit son propre raisonnement. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer par la thèse et ensuite l'antithèse. Ce que vous appelez thèse et antithèse, si vous voulez, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien commencer par le point de vue contraire pour expliquer contre quoi Durkheim a formulé cette fameuse phrase, cette fameuse conception du traitement des faits sociaux comme de choses. Vous avez des questions ? Pas de questions. Vous aurez des questions demain, mais ce sera trop tard. Non, demain, la semaine prochaine. Jeudi prochain. Vous aurez des questions jeudi prochain. Et vous y répondrez vous-même. Bon, alors on fait une pause.